Mikrofon jetzt kommt, Radio Stern nicht mit deinem schlechten Mikrofon.
88,4.
Pirado. Nichts für schwache Nerven. Das ist aber komisch. Pirado. Zack, zack.
Fortuna, solo su atarraya, el
Salut, on est vendredi. Aujourd'hui, une émission en français. C'est la suite de l'émission du mois dernier avec Seb qui va nous raconter la suite de son voyage en Amérique du Sud, en Amérique latine, et qui nous a ramené des invités aujourd'hui pour parler de certains des pays. Je vais te laisser le micro.
Alors effectivement, avec comme invité aujourd'hui Andrella, bonjour. Et Giulia, notre traductrice internationale italienne d'origine.
Bonjour à toutes et tous.
Andrella, hola, ¿qué tal?
Hola, bien, ¿qué tal?
¿Vienes de Colombia?
Sí, vengo de Colombia y pardon, je ne parle pas français.
Mais c'est pas grave. Alors, tu nous viens de Colombie spécialement pour cette émission de Radio Sterni. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton pays, on va dire sur le plan culturel, géographique ? C'est vrai qu'on ne sait pas vraiment à quel point la Colombie est un pays multiculturel. Et voilà, donc si tu peux nous faire un peu une description de ton pays.
Sí, como ya lo dijiste, Colombia podríamos definirla con una palabra que es diversa.
Si on devrait définir la Colombie dans un mot, ça serait diversité.
Y esto es, se ve en nuestra geografía, la mezcla de culturas, en nuestra música, paisajes.
Et ça, on le voit dans notre géographie, dans le métissage des cultures et dans la musique, aussi dans le paysage.
La geografía es determinante para que existan estas diferentes, digamos, como culturas, formas de vida y también los climas que influyen mucho en esas culturas.
Donc la géographie est très importante, surtout au niveau du climat, qui en fait influence ces différences culturelles.
Bueno, tenemos la suerte de estar ubicado sobre la línea del trópico.
On a la chance d'être placé au-dessus de la ligne du tropique.
Et por lo tanto, nuestros climas no están influidos por las estaciones del año, sin embargo, por las altitudes.
Et pour ça, le climat n'est pas influencé par les saisons de l'année, mais plutôt par l'altitude, les différences d'altitude.
Por ejemplo, tenemos dos costas, una en el Pacífico y otra en el Atlántico.
Par exemple, on a deux côtes, une sur l'Atlantique et l'autre sur l'océan Pacifique.
Y aquí, pues, estamos al nivel del mar y podemos tener temperaturas hasta de 40 grados centígrados.
Et au niveau de la mer, on a des températures jusqu'à 40 degrés.
También tenemos en las montañas picos nevados hasta de casi 6000 metros.
En fait, on a des montagnes avec de la neige éternelle qui arrivent jusqu'à 6000 mètres.
Pero bueno, estos picos nevados no están poblados de personas, pero sí tenemos ciudades que están en una altitud bastante alta.
Dans ces montagnes très élevées, il n'y a pas de gens qui habitent là-bas, mais en fait, il y a aussi des villes qui se trouvent très en haut.
Por ejemplo, Bogotá está ubicada a 2600 metros.
Par exemple, Bogotá se trouve à 2600 mètres.
Y podemos tener temperaturas en promedio de 17 grados.
En moyenne, la température est de 17 degrés.
En ocasiones, en un día puede variar mucho, desde 7 grados en la madrugada hasta 26 à mediodía.
Et dans une journée, on peut avoir 7 degrés à l'aube et jusqu'à 27 degrés pendant la journée et le soir.
Pero en general, nuestras temperaturas pueden variar mucho en un día, pero están determinadas por l'altitude.
Oui, la température qui varie beaucoup, mais c'est déterminé par l'altitude.
Là, tu nous as présenté un peu sur le plan géographique. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu les différentes aires culturelles?
Bueno, está muy relacionado las culturas que tenemos en el territorio con nuestra geografía. En Colombia hay una división de regiones.
Donc la différence entre les cultures est déterminée par la différence géographique.
Por ejemplo, dos regiones sont la costa pacifique et la costa atlantique.
Par exemple, deux régions sont celles de la côte pacifique et l'autre de la côte atlantique.
Y en estas regiones se ubica la gran mayoría de población de origen africano o de la cultura negra. Sí.
Et dans ces régions, on trouve la plupart de la population d'origine africaine de culture noire.
Esto también tiene una conexión con la música.
Et cela a también une connexion avec la musique.
La région centrale est la région qui est traversée par la cordillère de los Andes et se llama région andina.
La région centrale est traversée par la cordillère des Andes, c'est pour ça qu'elle s'appelle région andine.
En général, en esta región están las ciudades más grandes y también un componente de población más mestiza, no tan, digamos, pura de origen indígena o afro.
Dans cette région, il y a les villes les plus grandes et il y a aussi un très fort métissage avec de populations d'origine afro-américaine et indigène.
Alors, en parlant un peu des cultures d'origine africaine, tu as un morceau de musique à nous proposer?
Esta canción es de un cantante que murió hace unos años. Se llamó Joe Arroyo y el título es La Rebelión.
Esta canción la es de un chanteur que es mort depuis quelques années, que se appelle Joe Arroyo. Y el título de la canción es Rebelión.
Quiero contarle, mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.
Oye, men, no le pegue a la negra.
Esta canción se llama La Rebelión y es una historia sobre una pareja de esclavos.
Cette chanson s'appelle La Rébellion et c'est une histoire sur un couple d'esclaves.
Y esto es muy representativo en nuestro país, en nuestra cultura, porque tenemos mucha población negra que llegó de esa manera, tristemente, a nuestro país como esclavos.
Cette chanson représente notre culture aussi parce qu'il y a une grande partie de la population qui est arrivée en Colombie à cause de l'esclavage.
En los tiempos de la colonia.
Dans le temps de la colonisation.
Tu nous as présenté la diversité culturelle, géographique du pays, mais la Colombie, elle est aussi connue de manière internationale pour sa musique. Je pense notamment à Cali, la deuxième ville du pays, qui est un peu la capitale mondiale de la salsa. Mais avec un tel mix de cultures, il doit aussi y avoir une grande diversité de musique. Est-ce que tu pourrais un peu nous faire un panorama des différents types de musique qui existent sur place ?
No soy experta, pero les cuento desde mi experiencia como colombiana.
Donc je suis pas une experte, mais je peux vous raconter à travers de mon expérience personnelle comme en tant que colombienne.
Nuestra música es también el producto del mestizaje.
Notre musique est aussi le produit du métissage.
Así que tenemos música de orígenes afro-caribeños.
C'est pour ça qu'on a de la musique d'origine afro-caribéenne.
Música del afro del Pacífico.
Et musique africaine de la côté de l'océan Pacifique.
Y otros ritmos que vienen de las culturas indígenas.
Et des autres rythmes qui viennent de la culture indigène.
Y la mezcla con la cultura, las culturas europeas que llegaron.
Et tout ça a été mélangé avec la culture européenne.
La salsa, c'est une danse qui est assez ancienne ou ça date de quand ? Des années 70, des années 80 ou c'est bien avant ?
La salsa no se origina en Colombia como tal.
La salsa n'a pas d'origine colombienne.
Esta es un producto también de un intercambio cultural entre los países de Latinoamérica, del Caribe y la costa, específicamente Nueva York, por decirlo así.
C'est là aussi un produit du mélange de l'échange entre les cultures du Caribe et aussi de la côte américaine de New York.
Y esta la salsa se ha diversificado en cada país. Así que Colombia ha tenido como sus propias derivaciones.
La salsa se ha diversifiado en chaque país. En Colombia hay características très particulières de la región.
Tenemos unos ritmos más autóctonos.
Hay dos ritmos que son en fait plus autóctonos de la salsa.
Uno muy conocido es la cumbia.
Por ejemplo, que todo el mundo conoce la cumbia.
Tenemos un género también de canciones muy típicas de Colombia y un poco de Venezuela también, que se llama vallenato.
Par exemple, il y a aussi un genre musical qui vient de la Colombie et el Venezuela, qui s'appelle el vallenato.
Très bien. Et alors, parmi tous les types de musique que tu nous as décrit, lequel as-tu choisi pour la prochaine chanson?
Esta canción que va a sonar tiene bases de cumbia.
Et cette chanson que on va écouter, ça a des bases de cumbia.
Pero con mezclas de otros ritmos caribeños.
Avec un mélange d'autres rythmes du Caraïbe.
Que es un género prácticamente nuevo en Colombia o que ha surgido en años recientes.
C'est un genre très nouveau qui a surgi dans les dernières années.
Corazón, corazón, corazón. sobre la arena se desvanece. Me deja mirar el tuyo tendido aquí en el mar. Y las estrellas llenan el cielo que resplandece. Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor. Cuando el silencio se calla la boca y no pide perdón. Y cuando el alma se siente completa y te da la razón. Cuando tu cuerpo está conectado a tu corazón.
Vous êtes toujours sur Radio Sterni, sur Pi Radio, 88.4 MHz, radiosterni.qsdf.org pour avoir accès à nos archives, piradio.de pour laisser des commentaires, radio@qsdf.org pour nous envoyer des mails. Et donc on continue avec Seb qui s'éloigne de son micro pour chercher un paquet de chips, certainement. Non, c'est notre pour nous... pour continuer à nous emmener dans son voyage. Et on est toujours avec Angela.
Mais on produit Angela.
Angela, pour parler de la Colombie.
Angela, tu nous as parlé de la diversité de ton pays sur le plan culturel, géographique, musical. Et d'un point de vue international, la Colombie est aussi un peu plus tristement connue pour sa violence politique, avec notamment la guérilla des FARC. Heureusement, depuis plusieurs années, il y a un processus de paix qui est en cours. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ce qui se passe?
La situation que hemos vivido en Colombia por muchas décadas, varias décadas.
La situation que l'on vit en Colombie depuis plusieurs décennies.
Es una situación que ha durado aproximadamente 70 años.
C'est une situation qui a duré depuis maintenant 70 ans.
El término que usamos ahora es conflicto armado.
Le terme que l'on utilise maintenant, c'est le conflit armé.
Y se originó desde una época de violencia que empezó en los años 40.
Et on parle d'une période qui a commencé dans les années 40.
Como producto de la lucha entre los dos partidos políticos más importantes.
Qui a pour origine le conflit entre les deux principales entités politiques du pays.
El liberal y el conservador.
Le libéral et le conservateur.
Uh-huh. Todo surge porque las clases más poderosas, pues pertenecientes a la oligarquía del país.
Qui opposait les classes populaires à l'oligarchie du pays.
La guerrilla se origina a partir del asesinato de un líder.
La guerrilla a comencé a partir de l'assassinat d'un leader.
Del Partido Liberal.
Du Parti Libéral.
Que había sido elegido presidente.
Qui avait été élu président.
Así que la guerrilla, la lucha armada, ha sido como desde ese momento la alternativa de los partidos que representan las clases populares.
Et c'est pour ça que la lutte armée, la guérilla, a, dans ce temps-là, été l'alternative pour les groupes politiques des classes populaires.
La guerrilla de las FARC así se generó, se originó con una motivación de reivindicación de los derechos de participar en la democracia, de los derechos.
C'est pour ça que la guérilla des FARC est née avec une revendication politique de défense des droits.
Luchar en contra de esa hegemonía. Sí.
Pour lutter contre cette hégémonie.
Esta la guerrilla al evolucionar ha tenido bastantes cambios.
Mais au fur et à mesure du temps, elle a connu des évolutions, plusieurs changements.
Esto pues también favorecido por la complejidad de nuestro territorio.
Qui a été favorisé par la complexité du territoire.
Los grupos, diversos grupos empezaron a diseminarse en la selva.
Il y a différents groupes qui se sont disséminés à travers la jungle.
Y esto hizo difícil de para los dirigentes políticos, los ideólogos.
Et ça a été difficile pour les dirigeants politiques.
controlar lo que algunos líderes de estos grupos estaban haciendo.
Pour tous les idéologues de coordonner ce que faisaient les groupes des chefs locaux.
Y porque una manera de mantener los recursos que se necesitaban para subsistir.
Notamment pour maintenir les conditions de subsistance.
Era la criminalidad, el narcotráfico,
C'était la criminalité, le narcotrafic.
puntualmente el secuestro. Que...
Et parfois même les séquestrations.
Así que estos grupos, bueno, las FARC, y también ha pasado con otras guerrillas, han terminado delinquiendo.
Et que, au fur et à mesure, le groupe des FARC a dérivé vers une délinquance.
Hoy estamos en un momento histórico muy importante
Aujourd'hui, nous sommes dans un moment historique particulièrement important.
porque el acuerdo de para la paz
Parce que c'est l'accord de paix
entre las FARC y el gobierno
entre les gouvernements et les FARC.
está en el, digamos, los últimos pasos para ser aprobado.
Puisque là, on se trouve dans la dernière ligne droite pour que l'accord de paix soit approuvé.
El mundo sabe que nuestro presidente Juan Manuel Santos
Le monde entier sait que notre président, Juan Manuel Santos,
fue galardonado con el Nobel de la Paz.
a été prix Nobel de la paix.
Opiniones son divididas en el país,
Les opinions sont partagées dans le pays.
pero sé que muchas personas como yo estamos, tenemos muchas esperanzas
Mais beaucoup de personnes comme moi ont beaucoup d'espoir
que esta trágica y larga historia de violencia
que cette longue et tragique période de violence politique
está por terminar
est enfin terminée.
y que estamos iniciando un proceso
Et qu'on est en train d'initier un processus
para reparar
pour réparer.
todos los daños sociales, económicos,
Tous les dommages culturels, économiques,
políticos, morales,
politiques, moraux,
que ha dejado este conflicto armado.
que nous a hérité le conflit armé. Bueno, podemos escuchar una canción para cambiar un poco del tema político.
Sí, bueno, esta es una canción del mismo cantante que mencioné antes, Joe Arroyo, y se llama La Noche, y habla de un tema que es muy común en la salsa, que es el baile y el amor.
C'est le même chanteur que tout à l'heure et la chanson traite d'un thème récurrent dans la salsa, la nuit et la danse.
Candela.
Vous êtes toujours sur Radio Sterni, sur 88.4 MHz à Berlin, sur Pi Radio. Et on va continuer ce petit trip sud-américain avec Seb pour partir au Brésil.
Brésil.
Et alors, tu étais là-bas combien de temps? Tu ne veux nous raconter quoi sur le Brésil?
C'est un pays où je suis allé deux fois. Alors la première fois, en fait, je suis resté qu'une semaine, puisque en fait, c'était dans la première partie de mon voyage en Amérique du Sud. J'étais resté cinq mois, mais le Brésil, ça avait été un tout petit détour. Et je suis retourné l'année d'après pendant deux mois. J'ai commencé par atterrir à Sao Paulo. On était au mois de février. Et en fait, la ville vivait ces derniers moments des blocos de carnaval. Alors souvent, en fait, en France, on connaît le carnaval de Rio. Mais au Brésil, en fait, tout le mois de janvier est consacré au carnaval. Au carnaval au pluriel. Dans toutes les régions, dans toutes les villes, il y a des carnavals qui s'organisent, parfois même à la grande période, quotidiennement. Moi, je suis arrivé, c'était la fin des périodes de carnaval. Mais j'ai quand même assisté à ce qu'on appelle les blocos do carnaval, à savoir des chars avec de la musique et destinés à tout le monde. Sao Paulo, c'est une ville qui est... c'est une grande ville déjà, une grande mégapole, qui est très multiculturelle. Il y a notamment un grand quartier japonais, Libertad, qui... alors quand je dis japonais, en fait, ils disent le quartier japonais, mais c'est... asiatique en général. Il y a aussi une grande communauté de Syrie et du Liban. Et au niveau de la population locale aussi, on peut voir tout le mélange qui s'est fait avec tout le dégradé de couleur, on va dire, au niveau de la peau. Autant des personnes d'origine africaine que des descendants d'Européens blancs. Parfois, malheureusement, c'est aussi ce qui fait la spécificité du Brésil, c'est que ce dégradé de couleur de peau est un peu proportionnel au niveau économique. Donc, pour faire un peu caricatural, plus on est noir, plus on est pauvre, et plus on est blanc, plus on est riche. Bon, c'est une vision un peu triste du Brésil que je donne, mais malheureusement, et je l'ai eu confirmation aussi par des amis brésiliens, c'est vrai que ce dégradé de couleur qui est un peu proportionnel au niveau économique est malheureusement une réalité. Sao Paulo est quand même une ville qui est métissée. C'est une ville qui bouge beaucoup, dans laquelle il y a aussi des quartiers, des bars alternatifs qui me faisaient penser à Berlin pour son caractère un peu critique sur le genre, avec les queers, transgenres. Il y a aussi un grand quartier homosexuel dans lequel il y a une tolérance particulièrement importante par rapport au reste du pays. Contrairement à Berlin, par contre, il y a beaucoup de vie dehors aussi, surtout en ce mois de février, février-mars à Berlin, il n'y a pas beaucoup de vie dehors. Mais au Brésil, avec évidemment le climat tropical, il y a beaucoup de concerts qui se font de manière plus ou moins spontanée dans la rue, un peu comme Mauer Park en été. Une chose qui m'a par contre désolé, c'est l'extrême pauvreté qui peut exister dans la rue. C'est-à-dire qu'en Europe, effectivement, il y a aussi un très grand nombre de pauvres, de sans domicile fixe, et qui sont assis, qui ont leur petit sac à dos et qui font la manche. Et au Brésil, en fait, il y a un très grand nombre de gens très, très, très pauvres qui n'ont rien du tout et qui sont allongés à même le sol. C'est-à-dire qu'on peut marcher dans la rue et il y a des gens qui sont allongés, ils ont même pas un carton sur lequel ils s'allongent. Il y en a qui ont la bouche ouverte et qui sont quasiment dans la famine aussi. Hein. Et ça, on le voit à beaucoup, beaucoup de coins de rue de Sao Paulo. C'est quelque chose qui m'a quand même assez attristé. Et on peut clairement voir de manière évidente la profonde inégalité sociale, économique qu'il y a entre les habitants de la ville. Sao Paulo, c'est aussi une ville qui est quand même assez polluée. Du Brésil, un pays qui connaît beaucoup de corruption aussi. Un exemple, j'étais à Sao Paulo hébergé par des amis et il y en a un qui me dit « Bah regarde, là, tu vois, là, ça devait être un parc. Nous, notre ville, elle est très polluée et là, on devait faire un parc municipal, sauf que il y a des riches propriétaires immobiliers qui sont débrouillés pour... pour donner du bakchich à des élus locaux, et bah, ça va devenir des immeubles parce que c'est plus rentable. Sauf que nous, on étouffe sous le nombre d'immeubles, il n'y a pas assez de parcs, mais voilà, c'est un peu emblématique de la situation politique du pays. Alors, voilà, malgré ça, malgré cette inégalité économique, le Brésil a quand même une... Et même Sao Paulo, hein, les gens savent faire la fête. Et d'ailleurs, je vais proposer de diffuser une première musique.
Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba. De samba pra gente samba. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba. Meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba. Minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo.
Radio Sterni sur Pi Radio. Qu'est-ce que tu nous as passé
C'était Alcione, Nao Desse o Samba Morrer.
C'est un très bon accent portugais brésilien. Et je m'y connais très très bien en accent portugais brésilien. Bref.
On était à Sao Paulo.
Et tu es resté combien de temps à Sao Paulo?
Alors, Sao Paulo, j'y suis resté une dizaine de jours. Ce qui est beaucoup, en fait, puisque globalement, j'ai beaucoup aimé le Brésil. Par contre, au niveau des villes, c'est quelque chose quand même d'assez fatigant. Et moi, j'avais plutôt envie d'être parmi les paysages naturels. Et d'ailleurs, j'ai justement quitté Sao Paulo pour enchaîner avec les îles. Alors, entre Sao Paulo et Rio, il y a pas mal de petites îles qui sont assez sympas. La première que j'ai vue, c'est Ilha Bela, la belle île, dans laquelle je suis resté plusieurs jours, qui était très sympa, à part des sortes de petits moustiques, punaises, je ne sais pas trop comment les définir, mais des petits trucs qui te piquent au niveau notamment des pieds et qui te créent des démangeaisons pendant...
C'est les verrachiens.
Je sais pas le nom et je préfère les oublier, mais qui m'ont bien piqué, qui m'ont provoqué des démangeaisons pendant, je sais pas, 2-3 semaines, je pense. J'ai enchaîné avec une autre ville, ce qui m'a beaucoup plu, Ilha Grande, la grande île, et qui est une ville qui est située, comme je disais, entre Sao Paulo et Rio, qui a plusieurs parties. Et le nord de l'île est une partie où il y a beaucoup de tourisme, parce que les gens qui viennent de Sao Paulo, de Rio, arrivent sur les plages, c'est assez rapide, il y a la navette directe, et il y a un tourisme de masse, et pour les personnes qui restent plusieurs jours. Moi, au début, j'ai atterri sur cette île, je ne savais pas trop combien de temps j'allais rester. Je me suis dit, bon allez, 2-3 jours, 4. Au final, je suis resté 2 semaines. Je me suis dit, je vais faire de la randonnée. En fait, il y a des petits chemins de randonnée sur cette île. C'est une île qui a des parties qui sont protégées, où c'est des réserves. Et en fait, il n'y a pas de voiture. Le moyen de locomotion, c'est soit de marcher, soit d'utiliser le bateau. Bon, hormis une route, il y a une seule route, mais avec des véhicules qui sont seulement des véhicules utilitaires, pompiers ou navettes scolaires. Le nord de la ville, comme je disais, c'est un tourisme de masse. Et après, je suis allé faire mon chemin de randonnée. Je suis arrivé vers l'ouest. Et l'ouest, d'un coup, on est plongé dans un autre type de tourisme, qui est un tourisme de luxe. C'est-à-dire qu'il y a des gens de Sao Paulo, de Rio, qui ont leur voilier ou leur bateau à moteur et qui vont là pour le week-end ou pour prendre quelques jours de vacances. Et après, j'ai enchaîné avec le sud-ouest. Et là, le sud-ouest, tout ça, c'est en marchant plusieurs heures par jour. Sud-ouest, je suis arrivé. Et là, on est dans une partie totalement différente où c'est en gros des surfeurs et des hippies. Les deux étant évidemment très liés. C'est plein de petits campings avec des propriétaires de campings en fait, qui sont vraiment très accessibles. C'est-à-dire que j'ai pu facilement discuter avec eux. Il y en a qui passent leur journée à fumer des joints. Et c'est les propriétaires du camping. Là, je suis resté 4-5 jours. Et ce qui m'a permis un peu de discuter avec les gens sur place. Et vraiment, là, on a le temps. C'est vraiment super. J'avais mon hamac. Enfin, un hamac que m'avait prêté Paola. Et j'ai souvent dormi en hamac. En fait, au fur et à mesure de mes randonnées, et même là où il y avait le camping, en fait, j'avais aussi dormi en hamac à côté du camping. Là, c'est un moment où j'ai pu être vraiment très proche de la nature, puisque il n'y a pas ou quasiment pas d'éclairage public, il n'y a pas tout le bruit lié au trafic automobile ou choses comme ça. Ça a donné des spectacles très intéressant. Par exemple, sur la plage, il y avait des oiseaux qui attendaient toute la journée que les poissons viennent s'échouer pour les manger. C'est des charognards, je ne sais pas exactement leur nom. Et ils ont un comportement de groupe. Notamment, il y a un spectacle qui m'a assez étonné le matin. Ils font sécher leurs ailes. Ils se mettent en groupe face au vent et ils marchent. Donc on a presque l'impression qu'ils font genre des exercices de yoga ou je sais pas quoi. Je comprenais pas du tout ce comportement collectif. J'ai parlé à d'autres gens en disant mais qu'est-ce qu'ils font les charognards là. Et en fait on m'expliquait que C'est le matin, en fait, ils prennent le vent comme ça pour à la fois faire sécher et s'échauffer les ailes. Il y a un autre comportement d'animaux collectifs qui m'a étonné, c'est les crabes. Pareil, j'étais sur la plage, je passais quelques heures à regarder la mer ou les animaux. Et les crabes, en fait, ils courent dans les vagues, ils se font emporter par les vagues, ils s'échouent sur la plage. Après, ils sont étourdis quelques instants, ils repartent. Ils demandaient, mais pourquoi ils font ça? J'ai demandé à un ami qui étudie précisément le comportement animal. Voilà, un petit dédicace à Balou. Je lui ai demandé, mais est-ce que les crabes y jouent? Puisqu'on sait que les singes y jouent, qu'il y a plein d'animaux qui jouent, mais les crabes, est-ce que les crabes jouent? Et la réponse est oui. Oui, les crabes jouent. Ça veut dire qu'en fait, ils s'amusent à jouer un peu au surfeur. Alors après, il m'expliquait que derrière ce jeu, il y a aussi une question peut-être de survie de l'espèce. Ça veut dire qu'ils vont s'habituer à être désorientés, à se réorienter. Ils vont peut-être aussi un peu consolider leur carapace. Donc derrière le jeu, il y a quand même une idée un peu darwinienne, évolutionniste, de se dire que c'est pas non plus dû au hasard. C'est pas juste un truc purement ludique. Mais en fait, nous aussi, nos sports peuvent être liés un peu à des questions de survie. Ça veut dire que, je sais pas, les sports de combat ou même les sports où on développe la force ou choses comme ça, sont, même si on n'y pense pas, il y a des raisons évolutionnistes derrière. Il y a un autre spectacle qui m'a fasciné. Le soir, j'étais avec Mohamed, comme ça, dans la forêt. J'éteignais bien ma lumière parce que sinon, j'avais tous les moustiques qui venaient me piquer. Il y a une quantité de lucioles qui est assez hallucinante. Les lucioles, sachant qu'il y en a plein de différentes, il y en a qui ont des lumières qui vont être continues, très vives. Il y en a d'autres qui vont faire des petits flashs, des choses comme ça. Tous les soirs, il y avait vraiment des feux d'artifice de lucioles partout. Et c'est un spectacle qui est vraiment magique. En Europe, avant, il y avait beaucoup plus de lucioles. Et maintenant qu'on a des éclairages publics qui sont quasiment généralisés, il y a beaucoup moins de lucioles, puisqu'en fait, les lucioles s'éclairent pour pouvoir trouver des partenaires. Le fait qu'il y ait de l'éclairage public, ça fait que les lucioles n'arrivent plus à se retrouver pour s'accoupler. Et on a comme ça une disparition des lucioles, un tombeau des lucioles, qui en Europe. Et c'est quelque chose que j'ai pu retrouver au Brésil en me disant, bah oui, mais ça devait être peut-être comme ça avant en Europe, quoi. Voilà, donc comme ça, toute une période assez proche de la nature, avec aussi tous les bruits de la forêt, les singes notamment qui crient très très fort, les oiseaux, ça hurle aussi. Mais je propose qu'on s'écoute un petit morceau, Luis Gonzaga.
Un morceau de Luis Gonzaga.
Quando a caroa, quando flora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais se perturbar, vestido bem sentado não tem mais vestido em mão. Ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em mim. Ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar. O pai levou a doutora, a filha complicada. O homem não estuda, não tem nada. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 Manda caro, manda colorar na seca. É um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo. Vestido bem citado, não quer mais bicho de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai levou a doutora, a filha comentada. O come
morena, ela só quer o peixe da morena, ela só quer o peixe aqui, ela só quer o peixe da morena, ela só quer o peixe da morena. Mas o doutor examina, chamando o pai do lado, e de logo surdina, que o mal é da idade, que pra tal menina, não tem um só remédio em toda a medicina, ela só quer. Peixe namorar, ela só quer, só 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 peixe namorar.
Este é um dos últimos especiais de Gonzagão na TV, antes de morrer em 1989. Com seu gracioso chapéu de couro, ele emocionou o Brasil com as dores da seca no Nordeste e a tragédia particular de um pássaro que teve os olhos furados.
Quando olhei a terra ardendo, com fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, tamanha judiação. Eu perguntei a Deus do céu, ai, porque tamanha.
C'était un morceau suivi d'un autre qui n'était pas prévu de Luiz Gonzaga.
Et voilà. Et pour la suite, ce sera sur Radio Sterni dans 4 semaines. Et on laisse la place à Frequenz Consum.